Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, le bruit d'une ville qui gronde. Alors que Sophie défie les klaxons sur sa bicyclette, Éléonore se laisse bercer par la musique électroménagère du groupe Playboy. Mais c'est sans compter Jacques et ses écrivains, qui tapis dans l'ombre, formant un putsch sonore pour un nouveau ficelle podiaourt intitulé « Accord et accré ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e numéro de Micro-Cravate sur Choc, qui vous sera présenté par Anna Massé et Gauthier Piatek, toujours à la technique.
Salut Anna, bonjour à tous.
Que nos esprits s'épanouissent.
Direction Bruxelles pour notre première pièce rapportée. On rejoint Éléonore Fédoul qui, à l'occasion du festival Monophonique, est entrée dans le sonomaton avec le groupe Playboy. Des garçons qui aiment jouer avec des trucs pas cochons, improvisent des bébés morceaux et une cabine qui enregistre l'interview. On écoute.
Bonjour. Bienvenue dans le sonomaton.
C'est comme le photomaton, c'est-à-dire qu'on va enregistrer un petit message d'une durée maximum de 3 minutes. Que vous allez enregistrer quand vous voulez durant toute la durée du festival et on vous gravera un petit CD que vous pourrez ramener chez vous.
Avant de commencer, veuillez tout d'abord prendre quelques secondes pour ajuster la hauteur de votre siège. Votre bouche doit être au niveau du microphone. Détendez-vous. 5, 4, 3, 2, 1.
Je suis David Chazam, l'ami des enfants et des animaux, votre ami donc. Et voici Val Massé, qui est lui aussi très amical, ça se voit. Nous sommes Playboy, Playboy. Aucun lien avec la revue que collectionnait votre papa.
Rien.
Playboy, ça veut dire les garçons trucs, qui aiment jouer avec des trucs.
Playboy, c'est un duo de musique improvisée, mais avec des machines qui ont été fabriquées par Val, qui est un bricoleur de génie, qui motorisé des armoires, motorisé des verres, utilisé des moteurs, et tout ça, il crée des séquences électroniques avec des outils électroménagers. Et moi, je joue de l'orgue, je joue du filicorda avec un synthé basse aussi. Et on se partage, moi j'apporte une partie un petit peu harmonique et lui apporte une partie très rythmique. L'improvisation est un dialogue entre deux âmes musicales, ce qui est notre cas, c'est que la structure est... C'est une musique spontanément composée. La structure, elle existe comme si un bébé venait au monde. Il existe, il a déjà sa charpente, il a déjà sa colonne vertébrale, il a déjà toutes les terminaisons, il a déjà pratiquement tout. Et on va l'accepter comme il vient. Et nos morceaux sont des petits bébés. Et ce qui est bien, c'est qu'on réussit à les faire assez courts, assez concis, assez précis en fait. Mais ça, c'est un hasard. C'est le hasard de ce dialogue musical dont je te parle.
«
Moi, en tant qu'artiste, il m'arrive... Je suis pas moins profond que n'importe qui, mais c'est vrai que les choses que j'aime développer sont plus de l'ordre d'un peu des trucs joyeux, du non-sens, et je suis pas trop dans la masturbation noire et déprimée et dépressive. Ça, c'est sûr. Je pense qu'un artiste doit se faire plaisir pour donner du plaisir, et moi, je ne m'en prive pas. Je sais que ça a l'air d'être un peu dégueu comme ça. Ça fait que les gens vont penser que les artistes sont pires que des putes. Parce que les putes, elles au moins, elles prennent pas de plaisir quand elles en donnent. Nous, les artistes, musiciens qui jouent sur scène, on prend beaucoup de plaisir pour en donner.
C'est fini. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez sortir du sonomaton. La gravure de votre voix est en cours. Merci de votre visite. Au revoir.
Noyée dans la ville, j'entrevois une teinte qui colore nos grottes bétonnées d'une étrange toison d'or. Alors, j'aimerais voir les épis de blaire pousser sur les Champs-Élysées pour rire avec Belle Deschamps
avant de la violer.
Malgré une brise qui défie la moiteur, j'ai des sueurs autant qu'un beauf du téléachat sur le body trainer. En travelling perpétuel, mon œil filme le panorama. Une vieille dame parle à un banc qui ne lui répondra pas. J'aimerais être le néant, ne plus penser comme si j'étais le cerveau de Samina Seri croisé à suite, m'a-t-il saigné. Les graffitis dansent sur les murs quand la nuit se dessine et une abeille butine un jus de litchi dans une canette chin-chin. D'un coup, il me pousse des plumes à la place des doigts et d'un battement de cils, je m'évapore loin de ça. Apaisé, comme si j'étais entre deux seins bien roulés, je me sens bien comme dans un cocon fait de PQ alvéolé.
J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été. Les gens prennent leur temps, mais leurs gestes sont figés. Les touristes se déplacent en colonies de termites. Les monolithes sortis du sol tentent d'atteindre un ciel peint. Et c'est lorsque je regarde en l'air que j'ai le vertige. Des autos grises circulent dans ce monopoly, assis sur un terre-plein. Je contemple ma rue, je respire, je transpire et retranscris mes rêves dans les histoires que je me raconte pour que le temps passe plus vite. Et j'en profite pour gagner à chaque fois. Mon pain au chocolat a une drôle d'allure rabougrie. Il y a du gras sur mon cahier et toutes les feuilles sont collées. Et je suis infiniment petit, personne ne m'entend si je crie. Je saute de pavé, en évitant les gouttes de pluie. Il pleut mais il fait chaud, sous ma capuche et l'air d'un esquimau. Je n'ai pas pris l'habitude de revêtir mes vêtements estivaux. Nez à nez avec les jambes des gens, je marche lentement. Pour arriver au parc, je ne pensais pas que je mettrais tant de temps. J'enjambe la grille et je suis sur mon territoire. Ma ville à moi, c'est mon square. C'est pas pour de vrai, mais j'ai l'air d'y croire. Dur comme fer, le sable est mouillé. Les articulations de mes robots transformables sont rouillées. C'est juste l'enfer, mais c'est pas non plus la fin du monde. J'ai ma panoplie de super-héros et mon parapluie rangé dans mon cartable. Un tas de sable, une jeunesse perdue dans une chrysalide. À l'abri des responsabilités pour ma sécurité. À l'abri du monde extérieur, à l'abri des intempéries, à l'abri de la vie. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable.
Enfermé dans un petit parallélépipède, d'où je m'extrais quelquefois afin d'évoluer à l'intérieur de vastes artères remplies de gaz incolores mais nocifs pour mes alvéoles pulmonaires. Sur ma rétine s'incrustent des formes très diverses. Je me protège en cas d'averse, sentant de l'extension de mon épine dorsale un revêtement composé de matière plastique absorbé par les coudes de ma bande magnétique. J'avance, je marche seul dans la vie. Les rayons du soleil en me transperçant projettent sur le bitume l'empreinte de mon âme qu'une nuit de sommeil vienne piétiner. C'est pour cela que je n'avance qu'à la lumière artificielle, même si je sais qu'elle n'attire vers elle que des créatures aux blessures mortelles. Pour les femelles de mon espèce, je n'existe pas. Moyennant l'échange de quelques billets, certaines acceptent de toucher ma sensibilité, mais sans succès. Une lame rétractable me tient à l'abri des autres bipèdes, comme les chats qui se tiennent sur leurs pattes arrière. Je sais qu'ils voudraient altérer ma vision d'un coup de griffe afin que je cesse de raconter aux gens ce que je vois la nuit. Une une à une, j'ai gravi les marches de cet immeuble afin de contempler le complexe architectural dans sa globalité. J'étais qu'un jeune bipède, égaré parmi des milliers d'autres jeunes bipèdes. Je regarde au soleil, j'ai ma vie dans ma main, mes pieds quittent le sol, je m'envole.
Je lève la tête, admire l'envol d'un oiseau si haut, se rapprochant comme une goutte eau. Puis mon attention le laisse libre de mon regard quand me percute. Sans presque n'y prêter gare à l'entrée du square. Ce jeune enfant que les adultes effarent. Les notes, comme les clés à mes menottes. Sur une portée libère mes mots transcrits de ma mémoire à ma feuille des émotions. Le son de mon walkman m'isole des autres. C'est lui qui d'une plage à l'autre rend palpable mes expressions. Je reste pourtant invisible dans une foule menaçante. Parlant à son portable donc doublement absent. Les basses et les aigus de mes écouteurs affrontent la ville et ses couleurs. Crise car la population ne regarde que ses trottoirs. Chacun gérant sa crise naliquant ma présence que seulement après avoir traversé une flaque. Quand l'espace d'un trottoir mes pas me trahissent aux yeux des autres sans leurs humides marques. J'entends un autre moi, un homme regardant une vieille dame qui parle à un banc qui ne lui répondra pas. Ville, ville dans laquelle le monde tourne vite. S'il te plaît, observe aussi ce qui marche ta cible. Entre les ombres du tumulte qui défile sur ton site. Douette mes façons parmi les dangers des automobiles. Aider dans d'eau tranquille, invisible. Je reste frôle la beauté des monuments sans plus ni prêter attention. Cette attitude, c'est celle de la ville qui m'a conformé à ses habitudes.
Zigzaguer entre les autos, faire attention aux passants, bien regarder autour de soi avant de tourner, être cycliste en milieu urbain, c'est toute une aventure. Sophie Poisson a participé à la Bike Experience de Bruxelles, où les amoureux des deux roues ont pu suivre des formations pour adapter leur conduite à la ville.
La demi-journée de formation pour les bikers débute avec de la théorie. Cela passe tout d'abord par affirmer sa présence sur la route. Yonès Grillet, responsable communication pour ProVélo.
Les astuces qu'on apprend ici, c'est comment se comporter sur la voirie. Et le plus important là, c'est qu'il faut prendre sa place. Parce que beaucoup de cyclistes ont peur et ont toujours appris de rouler vers le côté droit de la voirie. Les cyclistes en devenir pensent alors que c'est moins dangereux parce qu'on ne prend pas la place des voitures. Mais c'est en fait le contraire qui est moins dangereux. Il faut prendre sa place pour qu'on soit visible. Parce que la plupart des accidents des cyclistes, c'est parce que l'automobiliste ou un autre usager de la voirie n'a pas vu le cycliste justement.
C'est ensuite l'occasion de revoir le code de la route, d'autant plus que la région bruxelloise et la Wallonie adoptent progressivement leur voirie.
Récemment, il y a deux nouveaux panneaux qui permettent les cyclistes justement au feu rouge de tourner à droite et, ou de même aller tout droit. Et ces panneaux permettent alors aux cyclistes de nier le feu rouge. Mais là, il faut continuer à donner priorité aux autres usagers qui peuvent encore être présents. Et ces panneaux sont évidemment uniquement mis aux endroits où il n'y a pas de croisement possible avec une voiture, mais uniquement des piétons et des cyclistes qui, eux, ont évidemment toujours leur priorité. D'autre part, il y a encore la rue cyclable. Dans la rue cyclable, les cyclistes ont priorité. Les automobilistes ne peuvent pas dépasser les cyclistes. Et là, c'est une première pour la Belgique. Avenue Louise. Et maintenant, il y en a aussi à Gand, à Malines, et il y aura une deuxième sur Bruxelles aussi.
Parmi les 326 bikers participant cette année, Yolande, elle fait du vélo depuis plusieurs années, mais quelques mésaventures lui ont fait renoncer au centre-ville. C'est finalement un collègue qui lui a donné l'envie de recommencer. La bike expérience a été l'élément déclencheur.
J'avoue franchement que j'avais déjà pris mon vélo quelques fois, et puis à un moment donné, je l'ai rangé au placard, je suis tombée, je me suis retrouvée très stressée, et je me suis dit, oh, tant pis maintenant, je prends le tram, je suis bien dans mon tram, je lis ma presse et j'écoute ma radio. Et puis voilà, il y a eu la bike expérience et je suis dedans.
Vous passez dans la ligne droite et donc au moment où je vous appelle, vous gardez le chiffre que vous...
Après la théorie, la mise en pratique avec différents exercices de maîtrise qui ont été organisés dans le parc royal. Par exemple, le lâcher de main, le retournement ou encore le freinage. L'occasion pour Yolande de faire un premier bilan.
Là, je me suis dit, aïe, 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 j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Non, c'était pas évident.
Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes?
D'abord faire le petit slalom. Je me suis dit, mon Dieu, tout le monde nous regarde ici, c'est pas évident. Et puis après aussi taper sur la main d'une personne en passant. Je me suis dit, oh, j'ai vraiment du mal à lever ma main droite.
Mais des choses quand même rassurantes aussi.
C'est très rassurant, oui, oui, oui. Et après ça, on est parti dans la circulation.
Tourner la tête, on peut y aller.
on y va.
Les bikers sont ensuite circulés en ville durant une heure et demie sous la surveillance d'un formateur comme Christophe, qui est chargé de mission pédagogique. Son groupe est ainsi passé par la rue de la Loi pour rejoindre Mérode. Il a ensuite emprunté l'itinéraire cyclable régional pour se rendre à la chasse, avant de revenir chaussée d'Ixelles pour rejoindre la petite ceinture.
On a ciblé trois types de difficultés qui sont spécifiques pour le cyclisme. Le sens unique limité, le rond-point et le tourner à gauche. Et ça, ce sont trois difficultés pour lesquelles on s'est arrêté et où les bikers ont pu passer les uns après les autres l'exercice en individuel.
Quels sont les conseils alors pour ces trois exercices ?
Alors, pour le sens unique limité, il s'agit de réduire sa vitesse, de toujours bien tenir un mètre de distance par rapport aux voitures qui sont parquées. Donc on est quasiment au milieu de la chaussée. Et quand une voiture vient en face, on ralentit, on essaye d'avoir le contact visuel avec la voiture qui vient en face et on va croiser la voiture à ce moment-là. Ensuite, on reprend sa place. Pour le tourner à gauche, mais pas oublier de bien se positionner avant de tourner au milieu de sa bande pour ne pas se faire dépasser au moment de tourner. Tourner bien large, gérer les priorités et pas oublier évidemment d'indiquer son intention avec son bras à gauche. Et enfin, le rond-point, un peu comme le tourner à gauche, on prend bien sa place au milieu de la bande avant d'arriver dans le rond-point pour ne pas avoir un énorme véhicule à gauche qui bloque toute la visibilité du rond-point. Puis quand on a la possibilité de passer, on prend à nouveau bien sa place au milieu de la bande et on indique en sortant.
Une des choses les plus importantes sur un vélo, c'est d'avoir une bonne sonnette.
Christophe souligne qu'il faut d'abord savoir faire du vélo, puis se préparer à circuler en ville. Il est ensuite persuadé que tout à chacun peut y arriver.
Il s'agit de connaître quelques bons comportements, surtout bien connaître son itinéraire en fait. Pas se lancer dans Bruxelles comme ça, au petit bonheur la chance, mais savoir par où on va passer, comment on va faire pour éviter ce qu'on appelle les points noirs, les points nœuds, des carrefours particulièrement compliqués comme Montgomery, Schumann ou la barrière de Saint-Gilles. À condition de connaître le code et d'avoir quelques petits trucs et astuces, mais on peut y arriver.
En l'occurrence, cette partie du travail sera prise en charge par un coach. C'est Henri qui s'occupera de Yolande. Il s'est réellement mis au vélo il y a une dizaine d'années. Depuis, il a pris le pli et il monte quotidiennement en selle pour se rendre au travail.
Moi, je répète souvent dernièrement un vieux slogan qui était utilisé dans les années 70. On disait « mon auto, c'est ma liberté ». Mais je crois qu'ici, en 2014, à Bruxelles, c'est le vélo qui est devenu ma liberté. Parce que finalement, quand vous voyez le temps mis à vélo pour faire un itinéraire identique en voiture, il n'y a pas photo, vous mettez la moitié du temps en vélo.
Faire du vélo à Bruxelles, c'est finalement aussi une manière de redécouvrir Bruxelles.
Tout à fait. Le vélo est devenu un art de vivre. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la tendance slow food et toutes ces tendances qui ont tendance à justement ralentir un petit peu les choses dans ce monde de stress et de rapidité où il faut tout faire 36 choses à la fois. Et l'échelle de déplacement du vélo à Bruxelles me semble une bonne prise de connaissance sur la découverte finalement de son environnement.
Un plaisir qu'il va donc tenter de transmettre. Henri s'est engagé à accompagner durant 3 jours Yolande à travers les 7 km qui séparent sa maison de son lieu de travail. Il lui expliquera notamment comment choisir un bon vélo et trouver l'itinéraire le plus adéquat.
J'aime bien de faire partager tout ce que j'apprends et donc mon expérience à vélo vaut la peine d'être transmise à des personnes qui sont plus candides ou plus débutantes en vélo. Donc c'est un transfert de connaissances.
La bike expérience se termine le 16 mai. Un nouveau projet intitulé Biker to Biker prendra ensuite la relève. Le site internet qui porte le même nom permettra tout au long de l'année à un biker de trouver un coach et à un coach de trouver un biker. Micro-cravate.
Pour conclure cette émission, place au stress. Dans une ville froide où de curieux complots se trament. Sauvetage de l'humanité, armes à feu et congélateurs, morceau par morceau, Jacques et ses écrivains reconstituent le cadavre exquis d'un attentat en devenir. Un ficelle pot-yaourt placé sous le signe de la révolution.
Pot-yaourt, ficelle, pot-yaourt.
Bienvenue dans ce troisième épisode. Je l'ai appelé « À corps et à cri ».
This guy is really good.
He's not a guy, he's a machine.
What are they gonna do, replace us?
Tout cela nous a paru idiot. Nous n'avions pas les mêmes raisons, mais c'était suffisant. Sans nous attarder plus longtemps, nous décidâmes de réagir. En effet, il nous paraissait indispensable de rendre les coups qui avaient été assénés. Et il nous paraissait clair que si nous ne lancions pas l'offensive dès maintenant, nous ne pourrions plus rien y faire. Car une fois la vague passée, notre éviction serait totale. En somme, il nous fallait nous mettre en route, dès maintenant. Nous avons donc commencé par appeler Janine. Très vite, nous étions fixés. Nous pouvions bénéficier de son soutien. Nous devions, dans cette même lancée, joindre Albert, car finalement lui seul pouvait nous faire entrer dans le jeu. Mais nous savions ce que cela coûterait. Nous n'avons pourtant pas hésité un seul instant, car oui, bon sang, nous l'avions mauvaise. Nous descendîmes dans la cave. Sous une couverture, nous trouvâmes des masques. Derrière des boîtes de conserve étaient dissimulées des munitions. Il ne nous manquait plus que les armes. Et là, à dire vrai, nous séchions. Nous regardâmes dans le placard, dans les cartons, dans les pots de peinture. Nous allâmes jusqu'à déplacer la commode en chaîne, placée contre le mur nord. Rien n'y fit. Soit nous ne pouvions rien trouver de plus, soit quelque chose nous avait échappé. Nous regardâmes nos montres et nous vîmes que nous n'avions plus le temps. La séance allait bientôt commencer et nous ne pouvions nous permettre d'arriver en retard. Une partie du plan reposait en effet sur notre présence dans la foule. Nous remontâmes prestement. Il nous fallait prévenir Benoît, car sait-on jamais, il pourrait peut-être avec sa sœur avoir en stock le matériel nécessaire. Nous avons passé un coup de fil, fébrile. La réussite de notre mission importait peu, mais nous nous devions d'essayer. Combien étaient déjà tombés? Combien nous regarderaient, envieux, les yeux remplis de reconnaissance? Une sonnerie. Nous nous étions dit qu'au pire, nous pouvions improviser avec des armes blanches. La cuisine devait bien contenir un ou deux couteaux. Deuxième sonnerie. Nous nous raclâmes la gorge, collectivement, dans le silence de la maison. Au loin, dans la salle à manger, on entendait le tic-tac de l'horloge en bois. Une vieille horloge, un peu moche, avec un coucou mécanique. Tellement cliché. Troisième sonnerie. Benoît décrocha enfin. Nous poussâmes un soupir de soulagement. Il nous indiqua les marches à suivre, car fort heureusement, son grand-père avait caché des armes datant de sa carrière dans la Légion étrangère. Elles étaient à la cave, cachées dans un vieux congélateur qui contenait également de vieux vestons en laine. Nous regardions l'heure tourner depuis trop longtemps. Tout s'accéléra et nous fonçâmes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire en direction de la maison du grand-père. Marcel, il s'appelait. Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. En un crissement de pneus, la Honda Civic rouillée s'arrêta devant la bicoque du vieux. Un regard à droite, à gauche, personne. Nous avons débarqué comme des sauvages dans sa cave, en prenant soin de ne pas nous faire repérer. C'était l'heure des chiffres et des lettres. Le vieux était sûrement endormi devant son poste de télévision. Nous fîmes sauter le verrou de la porte extérieure donnant accès au sous-sol, et comme un seul homme, nous avons couru vers le congélateur salvateur. Un moment qui sembla durer une éternité, suivi d'un silence gêné, se produisit. Nous avions trop peur de rater notre coup, et l'heure continuait de tourner. Sous les vestons de laine, nous avons trouvé les armes et quelques munitions en rab. Il avait eu raison de planquer son matos, le papy. Sous nos yeux ébahis, nous avons extrait les vestiges d'une période sombre de notre histoire. Quand tout allait mieux. Nous avions un Beretta 9mm avec silencieux et viseur laser. Benoît affectionnait tout particulièrement ce modèle. Une MP5 qui avait tendance à s'enrayer, il est vrai. Et un mini Uzi. Nous rigolions quand Janine prononçait Uzi, même si cela avait peu d'importance. Après tout, la survie de l'humanité en dépendait. Et puis nous sommes partis. C'en était assez maintenant du silence et des conciliabules. Il nous fallait du bruit, des cris et de la fureur, de la bêtise et du panache. Nous avons vu le Sivovitch, et il fallait à présent devenir les héros de notre récit. Personne n'en parlerait, sûrement. Il ne fallait pas compter sur les journalistes. Les journaux, ça existait déjà pratiquement plus. La télé, c'était la télé. Et puis la radio. Mais certains allaient voir, et certains se souviendraient. C'est pour les chanteurs de plus tard que l'on prendra pour des idiots. C'est pour les ivrognes des cafés. C'est pour les enfants perdus dans les écoles. C'est pour tout cela qu'il fallait que nous partions. Si nous réussissions, cela saurait nous récompenser. Nous ne savions déjà plus pourquoi nous en étions arrivés là. Mais le moment que nous ne voulions plus attendre était arrivé. Que l'on échoue, qu'on ne fasse rien, le résultat serait le même. Alors nous sommes partis. Nous n'avons pas fait de groupe. Nous sommes restés tous ensemble, serrés dans nos ceintures, Il n'y avait pas assez d'armes pour tout le monde, mais plus aucun de nous ne s'en souciait. L'écume montait à nos lèvres, et nous étions des footballeurs entrant sur le terrain. À peine étions-nous arrivés dans la rue que nous marchions dans les égouts. L'un d'entre nous refermait la trappe, et nous courons dans le terrier de la ville. Nos pas résonnent, et l'écume coule de nos bouches. Il fait froid et nous avons faim. Nous courons et nous voulons qu'il meure. Au-dessus de nos têtes, la ville continue son jeu de rôle et ne s'occupe pas de nous. Elle pourrait continuer à tourner comme cela pour toujours. Sans doute, c'est ce qu'elle finira par faire, avec ou sans nous. Nous courons et nous voulons qu'il meure. Les messieurs dans les bureaux frappent les claviers et les ordinateurs. Les madames des échoppes cheminent entre les visons et les laitues. Les marchands marchandent et les policiers tuent. Les autobus relient des points, les publicitaires gâtent au carrefour. Nous courons sous tout ce monde. Nous voulons qu'il meure. Et nous arrivons devant une échelle. C'est ici, aurait dit le chef si nous en avions eu un. Mais nous n'en avions pas. Et nous avions tous compris. Nos bouches entrouvertes ne bavaient plus. Et nos yeux avaient repris leur couleur d'origine. Cette course souterraine avait calmé nos corps. Mais pas encore notre rage. Mais maintenant, nous nous regardions. Et nous avions peur. D'une certaine manière, nous avions compris que peu d'entre nous survivraient à cette journée. Et c'était sûrement ce qu'on pouvait lire dans nos yeux à ce moment-là. Dans ces regards perdus, mais pourtant si décidés à en finir une bonne fois pour toutes, avec cette insolente excommunication dont nous souffrions tous. Ils allaient devoir nous prendre en compte après ce coup d'éclat, comprendre que nous sommes des êtres dotés de conscience, tout comme eux. Nous étions arrivés à un point de non-retour. Notre colère était si grande qu'ils ne pouvaient plus nous retenir longtemps. Nous avions pris notre décision lors de cette réunion sous la tour Al 9000, une référence à un film antique, dont seuls les plus érudits avaient notion chez eux, à l'inverse de nous, dont la mémoire de l'humanité nous était transmise lors de nos divers rites de passage. Ils nous méprisaient d'ailleurs, en grande partie en raison de ce savoir, cette connaissance qui nous faisait évoluer à une vitesse bien plus grande qu'eux, mais surtout nous évitait de reproduire encore et encore les mêmes erreurs. La plus grande plaie de leur nature humaine. C'est donc à cette réunion, sous cette fameuse tour, que nous avons convenu de notre action d'aujourd'hui. Beaucoup ont hésité, mais la tentation était trop grande de se montrer enfin au grand jour, d'arrêter de nous cacher, de vivre enfin, au risque que cela ne soit que pour un court instant, de vivre loin et en paix. Nous nous regardions avec ce mélange de confiance, de croyance, d'espoir et de peur. Une peur présente depuis toujours au fond de nous, une terreur indomptable qui nous conditionnait depuis si longtemps. Nous étions arrivés à bout, nous ne le supportions plus. Nous avions enfin décidé, il fallait que nous partions, et c'était maintenant. La décision était prise, ce soir, à minuit, l'année 2076 commencerait, mais c'est une humanité nouvelle qui s'éveillerait en cet énième 1er janvier. Car ce soir, à minuit pile, nous avions décidé de partir, de les laisser se débrouiller. C'est comme ça qu'ils comprendraient à quel point nous faisions partie de leur vie, ils n'auraient pas dû nous sous-estimer. 1er janvier 2076, selon leur stupide calendrier, nous avions tous décidé de débrancher nos systèmes. Nous qui, grâce à ces ordinateurs implantés dans nos cerveaux, contrôlions la bourse, les réseaux sociaux, les systèmes de défense militaire, les centrales énergétiques dans leur ensemble. Tout cela jusqu'à l'ascenseur que ces imbéciles prenaient le matin pour aller travailler. Nous allions mettre toute cette technologie hors service, leur prouver que l'on ne place pas des puces électroniques impunément dans la tête de pauvres enfants orphelins, leur prouver qu'ils avaient besoin de nous, et surtout que dans ce système, nous aussi, nous étions des êtres humains. Il nous faudrait ensuite se cacher, partir, se fondre dans la masse. Ce ne serait pas facile, beaucoup disparaîtraient, mais nous étions prêts.
Podiaout, ficelle, podiaout, ficelle.
Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Gauthier, Léo, Quentin et Léonore pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Douglas McDouglas. À la prochaine.
C'était Micro-Cravate. Merci à vous qui nous avez écoutés, que vous habitiez en ville, à la campagne ou sur une autre planète. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, retrouvez Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need 2 words.
Ok.
Micro-cravate.
Micro-cravate.